Aujourd'hui, la masterclass de Christophe Honoré avec Mathilde Sérel.
Bonjour Christophe Honoré.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette masterclass pour France Culture, une masterclass qu'on pourrait qualifier de totale. Tant sont nombreuses les formes artistiques que prennent votre écriture, quand même. C'est un peu la masterclass totale de France Culture parce que vous êtes à la fois cinéaste, scénariste, critique, romancier, auteur de littérature jeunesse, dramaturge, metteur en scène de théâtre et d'opéra. Avec vous, l'art nous rappelle que la vie se réinvente indéfiniment. Pourquoi choisir ? Vous prenez et le livre, et la pellicule, et la scène. Quant à l'adjectif prolifique avec vous, ça devient un euphémisme. 10 longs métrages, bientôt 11, traduisant Bataille pour ma mère, Madame Lafayette pour La belle personne, Ovide pour Métamorphose, ou La comtesse de Ségur pour Les malheurs de Sophie, faisant vibrer toutes les géométries complexes de l'amour et de la famille, avec dans Paris les chansons d'amour, Non ma fille tu n'iras pas danser, ou encore Les bien-aimés, je ne citerai pas tous. On vous doit 6 romans où de votre aveu vous déterrez le père, une vingtaine d'ouvrages pour enfants par-delà le bien et le mal. Déjà 8 pièces de théâtre hétéroclites, 8 mises en scène de théâtre et d'opéra, d'Hugo à Debussy, de Gombrowicz à Mozart, et aujourd'hui donc Verdi. Je m'arrête là. C'est un chemin hybride où tout semble circuler et se répondre. On va maintenant essayer de comprendre et de savoir comment. Donc la première question, c'est qu'est-ce que vous faites, Christophe Honoré, entre tous ces arts, plutôt qu'au milieu d'un seul ?
C'était pas un choix délibéré. En tout cas, je sais que quand je rêvais de devenir cinéaste, qui était quand même le désir premier quand j'avais 13-14 ans, je me disais pas, et puis ce serait bien aussi d'écrire des romans, et puis ce serait bien aussi de mettre en scène du théâtre et de l'opéra. C'est arrivé pas d'une manière hasardeuse, mais malgré tout un petit peu. Aujourd'hui, j'ai l'impression que finalement, ça correspond assez bien à ce que je cherche. Que ce soit au cinéma ou en littérature, c'est-à-dire que d'exercer dans plusieurs domaines m'oblige à une espèce d'impureté, c'est-à-dire que je ne suis pas un vrai cinéaste, je ne suis pas un vrai écrivain, je ne suis pas un vrai metteur en scène de théâtre ou d'opéra, et j'ai l'impression que du coup peut-être peut se loger là quelque chose d'un accord, en tout cas, entre moi et la modernité. En tout cas, entre moi et ce que je ressens du monde d'aujourd'hui. Cette idée, justement, d'être incertain, indécis, de sans cesse réinterroger sa propre identité, de se permettre des métamorphoses au cours de sa vie et que ces métamorphoses, ce soient aussi des métamorphoses artistiques. Et c'est en tout cas comme ça que je vis l'alternance des projets dans les différents domaines.
C'est la vertu de l'impureté pour vous, Christophe Honoré ?
Oui, alors après, c'est pas qu'une vertu, parce que ça peut être aussi un gros défaut, et j'en ai tout à fait conscience. C'est-à-dire que ça entraîne souvent une espèce d'image, en tout cas de l'extérieur, peut-être de dilettantisme ou de désinvolture, vous voyez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement pris au sérieux, parce que vous êtes toujours celui qui vient d'ailleurs. Et c'était un peu le cas au cinéma, peut-être moins aujourd'hui parce que maintenant j'ai réalisé pas mal de films, mais je sais que quand j'ai commencé à faire des films, on disait ah oui, c'est cet écrivain qui écrit aussi pour enfants, qui fait des films. Quand je suis à l'opéra, on me balance que forcément je viens du cinéma, et là ça faisait longtemps par exemple que j'avais pas republié un livre en littérature, et j'ai bien vu que forcément on m'identifiait avant, maintenant comme cinéaste et plus comme écrivain. Mais Donc c'est pas qu'une vertu, c'est-à-dire que ça brouille aussi énormément forcément la perception, l'accueil parfois, la réception des œuvres. Et puis moi aussi, c'est-à-dire que ça finit par me mettre un poids sur les épaules. Ou c'est peut-être parce que maintenant je commence à arriver à un certain âge où je me dis il doit bien y avoir une ambition commune ou un peu trop démesurée. Il va bien falloir à un moment faire une œuvre, alors quelle qui sera hybride comme ça et qui prendra qui portera en tout cas l'héritage de toutes ces aventures et donc des fois c'est aussi voilà, c'est un poids parce que j'ai l'impression que maintenant il faut réussir à associer, on va dire, théâtre, cinéma, littérature, et je ne sais pas encore quelle forme ça peut prendre.
Ce projet total. Puisque la littérature est la première matrice chez vous, quand même. Commençons par elle. Dans votre premier roman, L'Infamie, en 1997, le personnage du frère Thomas est écrivain et transforme les récits familiaux en règlements de compte. Dans chacune de vos œuvres où la famille est centrale, vous vous débrouillez justement pour que ce ne soit pas ça, ce ne soit pas qu'un règlement de compte. Et comment vous choisissez la forme que ça va prendre, davantage un roman, un film, une histoire pour enfants ou une pièce de théâtre? Où ça se décide?
En tout cas, ça m'est jamais arrivé, sauf dernièrement. C'est-à-dire le prochain projet, là, j'avoue, je travaille sur une histoire où je, selon les semaines, selon les humeurs, je me dis non, mais c'est complètement idiot d'en faire un film. En fait, il faut que ce soit plutôt un roman. Et quand je commence à l'envisager comme un roman, je me dis mais non, il faut que ce soit un film. Donc c'est la première fois en fait que ça m'arrive. Parce qu'autrement, très honnêtement, à l'origine de chaque projet, la forme était définitive, enfin je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire si j'ai commencé à publier plutôt des romans pour enfants et puis après des romans pour adultes, c'est que tout simplement quand vous avez 25-26 ans en France, moi j'ai pas fait d'école de cinéma, enfin j'ai pas fait la FEMIS, etc. Réussir en fait à convaincre tout simplement l'industrie du cinéma que vous allez être capable de faire un premier film, c'était un petit peu une mission impossible, donc je me suis dit que l'écriture allait me permettre d'accéder d'abord à la position de scénariste, ce qui a été le cas. J'ai été scénariste pour pas mal de réalisateurs. Et après, j'ai rencontré des producteurs qui m'ont dit « Mais vous n'avez pas envie de faire un film ?» Je dis « Bah si. » Et c'est comme ça que j'ai réussi en fait à faire un film. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que j'ai dû admettre que j'étais un cinéaste écrivain. Et que ça a été d'abord une lutte pour moi. C'est-à-dire que dans mes premiers films, notamment dans mon premier film, qui cette fois-ci le Cassard, je le vivais comme un handicap, quoi, vraiment, d'être écrivain. Je me disais « Ah là, c'est terrible. » Enfin, c'est terrible. J'avais une espèce de d'éducation très cinéphile, j'avais l'impression que c'était pas intéressant les films d'écrivains. J'ai changé d'avis depuis. Aujourd'hui, au contraire, peut-être parce que ça m'arrange, mais je me dis mais non, en fait, Cocteau, Guitry, Duras, tous ces gens ont apporté quelque chose au cinéma français et au contraire ont renouvelé des formes. Mais à l'époque, je le vivais plutôt comme un handicap. Ce qu'on appelle en tout cas l'idée du cinéma d'auteur, ce que moi j'ai toujours entendu dans le cinéma d'auteur, c'est l'idée de cinéaste qui donne de ses nouvelles, qui fait des films à la première personne. Et finalement, c'est une position qui est très proche de l'écrivain, c'est-à-dire que c'est vraiment d'envisager un nouveau film, un nouveau livre, selon ce qui s'est passé depuis la sortie du précédent. Et d'essayer d'accorder comme ça le travail à sa vie. Et donc, j'ai toujours essayé de faire des films qui étaient en résonance ou en écho avec ce que j'avais pu vivre. Mais ça, si vous voulez, ça marche... c'est beau, je vais dire un mot terrible, je le déteste, mais en début de carrière. Parce que
vraiment, là, vous êtes au bout.
Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand vous avez fait 3-4 films, se pose la question du film suivant. Alors, soit, effectivement, vous êtes dans des formes où vous je sais pas comment dire ça, vous mettez un peu dans un moule qui correspond à l'industrie du cinéma français. Et l'industrie du cinéma français, c'est malgré tout, bon, il y a les comédies, les polars, etc. Mais il y a aussi les films d'auteur. Et donc, vous pouvez faire comme ça des films d'auteur en injectant dans vos films des sujets, des choses qui vous touchent ou des univers romanesques. Mais il n'empêche que c'est toujours très troublant. Pourquoi relancer une machine comme un film ? Et donc, moi, je me pose beaucoup ces questions-là. Et c'est vrai que je pense qu'une manière pour moi d'y répondre, c'est de ne pas faire de film après un film, mais d'aller faire une mise en scène à l'opéra, au théâtre ou d'aller faire un roman. Ça me permet, en fait, d'oublier que je suis cinéaste et du coup, de répondre, en fait, par un film à ce que j'ai fait au théâtre ou à ce que j'ai fait en littérature. Je ne sais pas si je suis très clair.
Si. Vous anticipez même une question que j'avais envie de vous poser. Peut-être, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé avant de voir justement comment les œuvres se répondent les unes contre les autres, les unes par rapport aux autres, ou les autres, les unes et les autres en s'approfondissant l'une l'autre. C'est aussi lorsque vous ne vous emparez pas de textes qui sont les vôtres. Qu'est-ce qui fait, par exemple, j'en parlais au début de la masterclass, que vous vous emparez de Madame de Lafayette, d'Ovide, de la comtesse de Ségur? Qu'est-ce qui déclenche chez vous le désir de porter le texte qui n'est pas le vôtre?
Pour Madame de Lafayette, ça venait vraiment de la campagne présidentielle qui avait eu, à l'époque, c'était Sarkozy et Royal. Et Sarkozy avait notamment, s'était servi comme ça, enfin voilà, dans un discours très politique, très démagogique, de la princesse de Clèves en disant, en gros, mais pourquoi on fait étudier ça aux lycéens et on ferait mieux de leur apprendre l'informatique. Enfin voilà, je caricature, mais en gros, lui-même, et c'était une pensée assez caricaturale avec une formule assez caricaturale. Il disait, ah, mais demandez à la postière s'il a besoin d'avoir lu la Princesse de Clèves. Et moi, je crois que oui, qu'on soit postier ou qu'on soit qui qu'on soit, l'école en tout cas est le moment privilégié, le moment presque glorieux, idyllique, où à un moment, il y a la possibilité que des gens venant d'univers très différents soient confrontés à l'art. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, si on n'avait pas, au moment du collège ou du lycée, rencontré un prof de français, d'histoire géo ou de PS, qui nous avait montré une pièce, fait lire un livre, un film, et soudain, où l'idée de la beauté, d'une beauté qui échappe à notre famille, qui échappe au quotidien, en fait... une beauté comme ça qui pouvait nous terrifier ou nous impressionner quand on avait 12-13 ans, mais soudain nous affranchit de notre milieu. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu répondre. Et je me suis dit, il faut faire la Princesse de Clèves aujourd'hui dans un lycée et montrer que cette histoire-là, en fait, les concerne absolument. Sur Ovid, c'était différent. C'était au moment où on parlait de la dette grecque, où il y avait comme ça l'idée que dans l'Europe, les pays méditerranéens étaient des boulets pour l'avenir européen. Et là, c'était pareil. J'avais l'impression que c'était tellement insensé de ne pas revendiquer l'héritage méditerranéen en fait de notre culture, les Grecs, les Romains, voilà. Que je me suis dit, il faut refaire vivre les métamorphoses d'Ovide aujourd'hui, comme si soudain les dieux grecs et romains, comme s'ils s'étaient endormis, ils se réveillaient, ils voyaient l'état de la France et ils avaient envie d'intervenir, et notamment ils avaient envie de tomber amoureux d'une jeunesse française métissée, et voilà, et c'est comme ça qu'est née finalement Métamorphose. Donc c'est ça qui est assez étrange, c'est-à-dire que c'est pas, on va dire, par rapport à une bibliothèque ou par rapport à des goûts culturels où soudain je me suis dit, il faut absolument qu'un jour je fasse un film sur Ovid, c'est au contraire de trouver une réponse à un sujet d'actualité, mais d'aller trouver cette réponse justement en la croisant, on va dire, avec une œuvre existante.
Et puisqu'on est dans l'adresse justement à la jeunesse, à ces livres, à ces pièces qui peuvent vous ouvrir l'esprit, vous ouvrir un monde, vous publiez. Et vous avez énormément publié pour la jeunesse, vous continuez de le faire, principalement en compagnie d'illustrateur Gwen Le Gac. Dans le premier livre, Tout contre Léo, c'est un grand frère dont on ne dit pas aux petits qu'il va mourir du sida. Dans le terrible 6 heures du soir, c'est un père ogre qui dévore ses enfants. Dans la règle d'or du cache-cache, c'est une petite fille qui fait peur à ses parents parce qu'elle a des visions et aussi parce qu'elle se cache bien trop longtemps. Comment vient l'idée de ces contes, justement ?
La littérature pour enfants, c'est une discipline vraiment à part, pour le coup. Et c'est pour ça que je l'ai jamais abandonnée. Enfin, je trouve que c'est un terrain de jeu en tant qu'écrivain qui est réjouissant. Si je suis honnête, c'est pas toujours réjouissant de faire des films, c'est pas toujours réjouissant de faire des mises en scène de théâtre ou d'opéra, c'est pas toujours réjouissant d'écrire des romans. En tout cas, je veux dire que c'est des sentiments très mêlés de frustration, de... pourquoi tant d'heures passées pour faire ça, enfin, où la question de la valeur peut être vraiment très très lourde à porter. En littérature jeunesse, j'ai toujours eu énormément de plaisir à écrire mes livres jeunesse. J'y ai toujours accordé énormément enfin, je veux dire, c'est pas du tout, je suis pas en train de dire que je les prends à la légère, au contraire, mais c'est assez joyeux. Alors pourquoi? Si, je sais pourquoi. Le terrible 6 heures du soir, je venais d'avoir ma fille et c'était pas vraiment quelque chose qui était, enfin c'était quelque chose qui était un désir très fort chez moi, mais je me disais donc je vais devenir un père et je me suis dit, moi qui ai écrit plein de livres pour enfants auparavant, qui n'ai cessé un peu de malmener des fois des écrivains pour enfants qui étaient pour moi trop parents d'élèves, en leur disant qu'ils faisaient une littérature de parents d'élèves et que c'était pas ça la littérature jeunesse, qu'elle devait s'affranchir, on va dire, de l'adresse aux enfants. Je me retrouvais père et donc je me disais, il faut que j'écrive un livre où le père est un horrible salopard. et qu'au moins je prétende pas écrire pour ma fille un truc tout gentil où le père va aider sa petite fille à grandir dans la vie. Non, là c'est un père qui est odieux et qui dévore, et on pense même qu'il fait plus que dévorer toute une progéniture, et la fin c'est la fille qui finit par tuer le père et qui prend sa place. Donc c'était très personnel. La règle d'or du cache-cache, en fait, c'est parce qu'avec Gwen Le Gac, on se connaît depuis qu'on a 15 ans, on était dans le même lycée en Bretagne, on a grandi ensemble, on a cessé. Et Gwen, je l'ai connue à ce moment où dans la cour de lycée, on disait « Elle est où, Gwen ?» Et on savait jamais où elle était. Elle était tout le temps cachée. Et on avait, nous, un rapport assez amoureux à l'époque. Et elle disait « J'ai vu des choses. » Et je disais « Non, Gwen, t'as pas vu des choses. Me dis pas ce genre de choses, surtout en Bretagne, quand vous commencez à dire « J'ai vu des choses. » Vous voyez, il y a toute une armée de catholiques derrière qui sont ravis de pouvoir dire « Ah, mon Dieu !»
Elle est folle.
Elle est folle. Ou alors, au contraire, on a un miracle et tout ça. Et donc, je ne cessais de lui dire, non, t'as rien vu, et puis arrête de te cacher. Et donc, c'est, à un moment, ce livre, il est venu comme une réponse, 20 ans plus tard, en fait, à ça. Donc, c'est vrai que c'est toujours, en fait, étrangement, les gens pensent que quand on écrit pour la jeunesse, on fait des récits assez calibrés, ou didactiques, ou pédagogiques. C'est pas vrai. En tout cas, moi, tous mes récits jeunesse, quand vous disiez que mon premier livre jeunesse, c'était l'histoire, effectivement, d'un enfant de 10 ans qui apprenait, qui surprenait une conversation dans sa famille où il y avait que des frères, qu'un de ses frères était malade du sida, et donc à la fois il apprenait que cette mort comme ça était rentrée dans la maison, mais aussi que son frère était homosexuel, et ça se passait dans un petit bled en Bretagne qui s'appelle Nostronin. Moi je viens d'un bled qui s'appelle Rostronin, et dans une famille de frères, et c'est vrai que mon homosexualité au cœur de cette famille, etc., c'était pour moi important que mon premier livre prenne en compte ça. Et puis à l'époque j'étais entouré de gens, je connaissais pas mal de gens qui étaient malades du sida, et donc je voulais écrire un premier livre jeunesse, on va dire, qui soit très proche en fait d'une écriture à la première personne. C'était un manifeste pour moi presque. Donc j'ai toujours écrit en fait pour la jeunesse d'une manière très très personnelle. J'ai toujours, et peut-être par moments d'une manière un peu provocatrice, bien fait comprendre que les livres pour enfants n'étaient pas des doudous. C'est pas des, je sais pas comment dire ça, c'est pas des écharpes qu'on met aux enfants pour qu'ils soient mieux dans la vie. Non, c'est des rencontres avec l'étranger. Et c'est ce qu'on adore quand on est enfant. C'est ce qu'on cherche. On veut rencontrer l'adulte qui n'est pas de sa famille et qui va... Et que de cette rencontre, en fait, on va pouvoir s'ouvrir en fait à autre chose, à un autre monde. Et cette idée que l'adulte n'est pas forcément prédateur pour l'enfant, mais qu'au contraire, l'étranger, l'adulte étranger pour un enfant est essentiel dans sa construction, ça fait partie pour moi des piliers, on va dire, en tout cas de mon implication dans la littérature jeunesse.
Donc on l'a compris, quand vous dites littérature jeunesse, c'est tout sauf de la pédagogie, c'est tout sauf du manichéisme, c'est un espace du trouble. Est-ce qu'au fond, c'est dans cet espace-là, la littérature jeunesse, qu'il y a une vocation, écrire aux enfants, être cet étranger qui rentre chez eux ?
En tout cas, moi, je sais que j'ai écrit pour... Moi, j'avais pas tellement de livres, en fait. Quand j'étais enfant, j'ai pas croisé tellement de livres jeunesse. J'ai croisé La Comtesse de Ségur, mais mes parents n'avaient pas la connaissance, tout simplement, d'une littérature jeunesse contemporaine. Et je pense que j'appartiens à une génération où c'était pas si... je sais pas comment dire ça. Enfin, à l'école, on nous apprenait des poésies, des machins, etc. Mais je veux dire, l'idée de l'écriture contemporaine pour la jeunesse, elle était pas si forte que ça. Donc, c'est vrai que moi, c'est... Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 17-18 ans, j'ai été très militant à l'éducation populaire, dans une association qui s'appelait les CMEA, qui était justement autour de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la démocratisation culturelle, la médiation, l'idée comme ça que un individu évolue au cours de sa vie, que les gens changent et que les gens peuvent changer et que l'art peut leur permettre justement de s'affranchir d'un milieu. Donc, étant très militant, c'est vrai que pour moi, c'était important d'écrire pour la jeunesse. J'étais assez vindicatif. Et je me souviens à l'époque, Geneviève Brisac, parce que j'avais envoyé mon premier texte par la poste, tout contre Léo.
C'était votre éditrice à l'école des
loisirs. Et voilà. Et elle m'avait répondu un mois après. Donc j'étais ravi. Et quand j'ai commencé à lui dire pourquoi j'écrivais pour la jeunesse, elle m'a dit oui, non, mais. Enfin, c'est pas qu'elle m'a calmé, mais en tout cas, elle me trouvait un peu trop fervent. Et puis en même temps, c'est vraiment elle qui m'a encouragé et qui m'a dit « mais il faut absolument que tu écrives aussi pour adultes ». Et c'est comme ça que j'ai fini par écrire « L'infamie » qui est paru chez l'Olivier 2 ans après mon premier livre pour enfants.
Alors, dans votre cinéma où les personnages lisent, bien sûr, la littérature n'est jamais très loin, à commencer par la présence d'un narrateur ou d'une narratrice. Ça, c'est quand même quelque chose de constant chez vous, Christophe Honoré. Pourquoi c'est une médiation, vous en parliez à l'instant, qui est nécessaire, et quel rôle vous donnez au narrateur ?
Dans les films, c'est vrai que j'ai ce goût-là. Mais alors après, c'est parce que il y a plein de manières différentes de faire du cinéma. Et très honnêtement, je prétends pas du tout que la manière que moi j'ai choisie, j'ai pas une vision totalitaire là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, même si des fois, je peux être un peu véhément sur le travail de mes collègues.
Oui, voilà, c'est ça. On vous a vu critiquer notamment la moralité du cinéma français dans un article qui a fait
dans
les cahiers du cinéma.
C'est un problème parce qu'après, quand vous commencez à faire des films, forcément, il faut bien assumer ce que vous avez écrit sur les autres, quoi. Et puis surtout, il faut bien assumer que vous n'êtes pas votre cinéaste préféré. Et qu'à un moment, vous pouviez avoir des grandes idées sur le cinéma, défendre une certaine idée du cinéma, et puis après, vous faites avec ce que vous êtes et avec ce que vous savez faire. Sur cette idée du narrateur, c'est que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai assumé, notamment à partir de Dans Paris, parce que, étrangement, mes deux premiers films, j'avais l'impression de les construire contre la littérature. Et même un film comme Ma mère, qui était une adaptation de Bataille, avec Isabelle Huppert, Joanna Price, Louis Garrel, j'ai tout fait pour filmer ce. En plus, c'était. Aujourd'hui, je serais incapable de faire ça. J'avais vraiment une naïveté. Enfin, je sais pas si c'était une naïveté, quelque chose d'un peu fou, en fait, que de prétendre pour mon deuxième film prendre un texte comme Ma mère de Bataille, Bataille avec tout ce que les gens imaginent de l'écriture inadaptable, l'impossible en littérature, etc. Et moi d'arriver, dire, bah, moi je veux en faire un film, c'était. Puis d'aller voir Isabelle Huppert et lui dire, ah oui, ce serait bien que vous fassiez ça et tout ça. Et aujourd'hui, je n'en reviens pas, en fait, où j'ai trouvé la force, en fait, de faire ça et la bêtise, peut-être un peu. Mais ce que j'aimais bien, c'est que ce film, je voulais qu'il soit un peu bête. Enfin, pas bête dans le sens, mais qu'il ait une forme, en tout cas, un peu documentaire. Je voulais surtout pas que, sous prétexte que c'était Bataille, que c'était quand même des histoires, l'érotisme,
le dit.
Voilà, le dieu, enfin, il y avait quand même, et puis les bordels, on imaginait les teintures rouges, enfin, je sais pas comment dire ça, il y avait comme ça tout, il y a quand même aussi toute une imagerie qui peut être rattachée à la littérature de Bataille, et je voulais au contraire filmer ça comme un documentaire, et c'est pour ça que j'ai été mettre ces personnages dans une île en Espagne, à Maspalomas, où de ce tourisme sexuel, très absolument, avec une obscénité, une vulgarité des décors, des lieux, des ambiances. Et puis de mettre là-dedans Isabelle Huppert et de la suivre avec une caméra qui était presque documentaire. Donc de faire un film vraiment un peu sale, quoi, un peu brouillon. Je me souviens que j'arrêtais pas de dire à... Parce que forcément, quand vous avez Isabelle Huppert dans un film, tous les techniciens, ils veulent faire des beaux cadres parce que ça les impressionne, vous voyez. Moi, je disais, mais non, faut pas faire des belles images. Donc je les poussais. Je me souviens, j'avais la chance de travailler avec une époque qui s'appelait Hélène Louvard. Et puis au bout du troisième jour, elle m'a dit, tu vas te mettre derrière moi et quand tu m'appuieras sur l'épaule droite... Je panoterai à droite et sur l'épaule gauche, je panoterai à gauche parce que je n'en peux plus t'entendre me dire va à droite, va à gauche, va à droite, va à gauche. Et c'est une super chef-op et elle l'avait pas mal pris. Et donc j'étais là derrière et dès que ça commençait à s'installer et à devenir un peu pesant, je disais, non, va filmer les baigneurs tout nus dans les dunes. Va. Et c'était amusant, mais c'est un film qui n'est absolument pas adressé aux spectateurs. Vous voyez, c'est vraiment, ça se termine en plus sur une scène à la morgue avec Louis Garrel qui vient voir sa mère morte, Isabelle Huppert, et qui finit par se masturber sur le cadavre. Et puis là, moi, je coupais avec un générique dans le silence et j'étais tellement fier de moi. Et après, quand j'ai été montrer le film, quand j'avais des débats, j'étais face à des salles, mais d'une hostilité qui vraiment me regardaient en disant « pauvre garçon ». Et je sais pas s'ils avaient raison, mais en tout cas, à un moment, je me suis dit, bon, faut arrêter un peu sa crise d'adolescence. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans Paris. Et j'ai dit, assume aussi quelque chose de l'ordre de la littérature et du narrateur. Et en fait, dans Paris, c'est une adaptation de Franny et Zoé de Salinger. C'est très, très inspiré de, voilà. Et avec un narrateur, effectivement, qui est le petit frère, joué par Louis Garrel, qui nous raconte une histoire. Et après, ce narrateur, ça m'a calmé, en fait, de mettre dans les films des personnages qui prennent en charge, justement, la manière de raconter l'histoire. Et donc, je l'ai fait assez souvent.
Alors on va continuer dans cette filmographie qui est la vôtre, Christophe Honoré. On va retrouver des motifs récurrents de vos influences. Truffaut, Godard, Demy, des motifs qui répondent aussi d'un film à l'autre. Par exemple, cette scène à trois dans un lit qui vous vient de La maman et la putain de Jean Eustache. On va la retrouver régulièrement dans vos films. Il y a aussi vos propres motifs, ces scènes de départ d'ambulance qu'on retrouve dans plusieurs de vos films. Comment est-ce que, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, comment est-ce que vous construisez un film par rapport à l'autre ?
Ces motifs-là, vous finissez par les admettre, en fait. À la table de montage, voilà, mon prochain film. C'est drôle que vous me dites ça, parce que là, je suis en train de travailler sur l'affiche de mon prochain film, et j'ai vu des projets hier, et à un moment, ils sont trois dans un lit. Et je leur ai dit, non, bah, c'est quoi ce truc ? Et ils me disent,
c'est un film de Christophe Honoré.
Et exactement. Ils me disent, mais c'est votre signature, et tout ça. Et je dis, mais non, c'est pas ma signature. Ils me disent, c'est pas si fréquent dans la vie qu'on se retrouve à trois dans un lit. Et donc du coup c'est un peu énervant, enfin pas énervant, mais ça vous interroge, ce que vous dire, ah oui, donc je deviens fétichiste moi-même de mon propre travail, pourquoi? Et puis en même temps, si je réfléchis au cinéaste que j'aime, si je réfléchis à Truffaut, si je réfléchis à Demy, si je réfléchis à Arnaud Desplechin, Olivier Assayas, mais même des plus jeunes cinéastes aujourd'hui, Mia Hansen-Løv, Sophie Le Tourneur, je vois bien que c'est ça que j'aime aussi dans leurs films, c'est-à-dire que je retrouve des motifs, comme quand vous êtes attaché à un musicien, vous retrouvez des motifs. Donc c'est pas forcément des redites. Et pourquoi ces images-là ? Pourquoi effectivement, je trouve ça... J'adore filmer des gens dans un lit. Je sais que quand j'arrive sur un tournage et je sais que c'est la journée où on filme des gens dans un lit, je suis content. Parce que je sais que je vais trouver, Alors que si c'est filmer des gens dans une voiture, je sais que ça va être l'enfer, que je vais être de mauvaise humeur et que je vais pas aimer la scène et que je vais peut-être la couper au montage. Et c'est pas forcément filmer des gens tout nus, hein, dans les lits, hein. C'est juste que je trouve que c'est inspirant. On sait où mettre la caméra. Et puis je sais pas, j'aime bien filmer les acteurs et les actrices allongés, je trouve que les corps sont différents, je trouve que la voix est différente, et puis ce qui est bien quand vous filmez des gens dans les lits, c'est que du coup en général vous êtes dans des chambres quand même, et donc l'équipe elle est loin parce que tout le monde peut pas être là, et donc je sais pas, vous partagez un vrai moment d'intimité où c'est une tendresse en fait que j'aime bien, et je trouve qu'une réunion familiale dans une chambre, ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus intéressant par exemple que autour de la table du salon ou de la table de la cuisine.
Il y a des motifs récurrents, il y a aussi une évolution dans votre cinéma, je dirais qu'il y a une sorte de progression vers la fictionnalisation. Est-ce que vous avez ce sentiment, vous ? Est-ce que c'est volontaire ?
Ça dépend, parce que vous avez raison dans le sens où après Les Bien-Aimés, j'ai fait donc Métamorphose d'Ovide, qui était vraiment sur l'idée de la fable. Après, j'ai fait Les Malheurs de Sophie, d'après La Comtesse Ségur, qui était vraiment autour du conte. Donc, il y avait comme ça l'idée effectivement de temps absolument romancé, pas romancé même, on peut dire fictionné, de temps qui n'existe pas. On vise une espèce d'utopie de la fiction. Mais là, par exemple, mon prochain film, j'ai été le tourner à Rennes où j'étais étudiant, j'ai carrément été tourné dans l'appartement où j'étais étudiant, et donc du coup, je suis sur un film très très personnel, vraiment à la première personne, avec un personnage qui est Vincent Lacoste et qui incarne vraiment l'étudiant que j'étais dans les années 90. Donc du coup, je reviens à quelque chose qui est presque plus de l'ordre du journal intime. Et donc c'est une balance en fait. Mais ça vient certainement répondre à, justement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le Métamorphose ou Les Malheurs de Sophie, mais j'avais envie de revenir à un cinéma beaucoup plus qui me mettent en jeu autrement. Moi, j'admire vraiment les cinéastes acteurs. J'aurais rêvé d'avoir cette capacité-là, de Moretti, Woody Allen. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un metteur en scène, en fait, qui rentre dans son plan, qui rentre dans le plan.
Donc, il n'y a pas un sens de l'art comme il y a un sens de l'histoire. Il n'y a pas l'idée d'une progression dans son art, ou quand même parfois vous vous retournez, vous dites là, par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure avec l'adaptation de Bataille, Ma mère, ça va beaucoup mieux par rapport à cette idée de bêtise. Vous disiez que c'est un film bête.
Si, en tout cas, il y a des films où vous savez que vous ne sauriez plus les faire. Je sais que je ne saurais plus faire Dans Paris, je ne saurais plus faire Les Chansons d'amour. Mais parce que c'est aussi des films qui sont faits presque dans une clandestinité par rapport à l'économie. C'est des films vraiment très peu chers, tournés en 4-5 semaines, avec une équipe comme ça que vous emmenez. Et puis, à un moment, bah, vous commencez à devenir un cinéaste où c'est plus difficile, en fait, de proposer à des équipes, à des acteurs, de vous suivre sur des projets, on va dire, plus légers. Même si moi, je suis pas du tout dans des très gros budgets ni rien, mais malgré tout, vous avez envie que les gens soient bien payés quand ils travaillent avec vous, etc. Et puis aussi parce que il y a quelque chose que vous ne pouvez pas refaire, c'est-à-dire refaire dans Paris ou refaire les chansons d'amour, ce serait idiot. Moi, ça ne me renverrait qu'une chose, c'est que je n'ai plus 35 ans comme quand j'ai fait les chansons d'amour et que donc je n'ai pas les mêmes idées. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a une progression. Vous finissez par... Cette progression, elle est compliquée parce que chez les cinéastes, très honnêtement, il y a un moment où ça s'arrête. C'est très très rare les cinéastes qui arrivent à être à faire des beaux films jusqu'à la fin. On peut toujours citer Olivera, on peut toujours citer
Kubrick.
Clint Eastwood, Kubrick, mais Kubrick, il en faisait un tous les 5 ans, donc c'était encore autre chose, mais c'est assez terrible. On le voit quand même chez des cinéastes qu'on a beaucoup aimés, il y a un moment, c'est fini, quoi. Ce sera jamais au même niveau. Parce que je crois que le cinéma demande énormément d'énergie et de le cinéma a à voir avec une certaine jeunesse quand même. Alors sauf des cinéastes comme Chabrol par exemple qui ont toujours fait des films depuis une certaine vieillesse. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc à un moment son âge s'est accordé à la mise en scène qu'il faisait. Mais quand vous voyez les premiers films de Chabrol, vous dites c'est pas possible que cet homme a 30 ans ou 35 ans, ça ne marche pas.
On a beaucoup évoqué la littérature. Ensemble dans ce qui nourrissait vos films. Vous parlez de jeunesse, ça commence très tôt cette collaboration avec Alex Baupin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un des arts sur lequel vous ne vous aventurez pas, la musique. Pourtant, on a dit que vous touchez à peu près à tout. La musique, non, les chansons d'amour dans Paris, Les Bien-Aimés, Jusqu'au malheur de Sophie. Quelle place elle joue dans l'écriture ? Et comment est-ce que finalement, quelqu'un qui vient d'une école comme celle de Serge Danet, c'est-à-dire où la musique est un peu la jambe de bois, la béquille du mauvais cinéaste. Comment est-ce que vous êtes amené à lui donner une place si grande ?
Bah c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je me souviens, sur mon premier film, je voulais pas de musique. Je voulais une musique qui soit qu'une musique assez organique. Et puis à l'époque, encore aujourd'hui, hein, d'accord, mais le travail de Lynch était quand même très important et cette idée comme ça d'une bande sonore qui mêle constamment à la fois le montage son, la musique, mais sans qu'on sache exactement à quel moment la musique prend le pas sur des bruits, des sons, des rumbles et voilà. Et donc dans 17 fois, j'avais plutôt travaillé ça et puis c'était Alex quand même qui avait fait la musique, c'était pas du tout sa nature, ce que je lui demandais. Et je lui ai dit, non, mais on va mettre une chanson. Et on a mis une séquence qui était Pretty Killer. C'était une chanson d'Alex. Et voilà. Et évidemment, c'est la séquence qui s'est retrouvée dans la bande-annonce. C'est la séquence dont on m'a parlé partout. Et on m'a dit, ah, ce moment... Je me suis dit, mince, bon... Et j'ai dû admettre que la chanson, notamment, était quelque chose... je sais pas comment dire ça. En tout cas, que je parvenais à faire des séquences autour de chansons qui marquaient un peu des spectateurs et qui étaient des moments un peu gracieux dans les films. Et donc ça a été une lutte parce que je me souviens que sur Ma Mère, j'ai presque pas mis de musique. Alex n'était pas sur Ma Mère. Et puis sur Dans Paris, j'ai redemandé à Alex Baupin de venir. Et puis on a fait cette séquence qui était une séquence chantée au téléphone entre Jonah Pryce et Romain. Et puis c'est pareil, c'est vraiment la séquence qui est devenue, qui a vampirisé le film. Vous savez, les films, vous, quand vous êtes cinéaste, vous faites un film, il y a des heures de rush, quand vous faites un premier montage, en général, votre film, il fait 4 heures, et puis vous le réduisez, vous le condensez à 1h30, 2 heures. Mais finalement, ce que les spectateurs retiennent, c'est 3 minutes de votre film. Et quand ils en retiennent 3 minutes, c'est que plutôt, il y a eu un échange, vous voyez. Et donc j'ai bien vu que sur Dans Paris, c'était ce moment-là. Et c'est comme ça qu'avec Alex, on s'est dit bon on a été très marqué par les comédies musicales américaines, très marqué par l'univers de Jacques Demy. Essayons. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé d'une manière un peu inconsciente, on va dire, dans les chansons d'amour, et que les chansons d'amour est devenu un peu le film J'aime bien ce film, hein. Moi, je.
Moi aussi, j'aime bien ce film.
Mais, je, très honnêtement, je pense pas que ce soit la chose la plus intéressante que j'ai fait au cinéma. Et je vois bien que c'est celle qui fait écran au reste. Mais bon, après, ça vous échappe, ce genre de choses.
D'ailleurs, dans votre collaboration avec Alex Baupin, comment ça se passe? Par exemple, dans la méthodologie, si on regarde votre tandem avec l'illustratrice Gwen Le Gac, on en parlait tout à l'heure. Comment est-ce que vous fonctionnez tous les deux, peut-être d'ailleurs très différemment de ce que vous faites en tandem dans la littérature jeunesse?
Ce qui est rigolo avec Gwen Le Gac ou Alex Baupin, c'est que c'est des gens, on s'est connus, on avait 15-16 ans. Donc on s'est connus dans des fêtes, à trop boire, à trop fumer, trop baiser, trop vomir, trop machin. Donc forcément, quand après vous vous retrouvez à faire des choses sérieuses, aller voir des éditeurs, des producteurs, après aller parler à des journalistes, vous oubliez jamais quand même que pour vous ça reste quand même des conversations de canapé avec des gobelets et du vin blanc un peu trop chaud, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est très lié à quelque chose de nos vies. Alors après, ça évolue. Avec Alex, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble. Et Alex, maintenant, il est plus sur son travail de chanteur. Et puis, les chansons d'amour, c'était très particulier parce que dans cette bande d'amis, justement, on avait vécu quelque chose qui nous avait tous marqué, qui était la disparition d'une jeune fille qui était très très proche d'Alex et de moi. Et Alex, à la suite de ça, en fait, avait écrit des chansons. Il n'était pas vraiment chanteur, il était encore, je sais plus s'il était encore étudiant ou. Et puis il a fait finalement un espèce de premier album qui était voilà et puis qui a pas tellement marché et moi je sentais une telle injustice que et donc je lui ai dit ben on va reprendre ses chansons et puis on va lui faire un film en fait on va essayer de transformer cette peine qu'on a en chagrin heureux. C'était vraiment l'idée et en se disant bon ça va intéresser personne, c'est tellement personnel que et puis finalement comme souvent, c'est-à-dire que quand vous êtes au plus proche de vous, finalement c'est là où vous partagez des émotions que les autres s'approprient très facilement.
Avec vos acteurs, vous entretenez une forme de rapport de fidélité, de troupe presque théâtrale quand on pense à Divine Sanier, Cara Mastroianni, Louis Garrel. Vous parlez de casting à la voix. Souvent, qu'est-ce que justement, parce qu'on était dans la musicalité avec Alex Baupin, qu'est-ce que vous cherchez dans ces voix et en quoi vous les avez choisies pour leur voix?
C'est compliqué pourquoi vous choisissez un acteur ou une actrice. Au début, quand vous commencez à faire des films, forcément, vous avez envie de travailler avec les gens que vous avez aimés dans les films des autres. Et puis, de les inviter dans votre film, c'est une manière aussi, vous, de vous rassurer et de, comme si, soudain, vous vous donnez la possibilité d'appartenir à une famille qui serait le cinéma français, etc. Et donc, et puis vous avez envie de les filmer autrement. Donc, moi, j'ai jamais eu peur des acteurs. C'est-à-dire que, je vois bien quand même, à l'époque, notamment quand j'ai commencé à faire des films, il y avait comme ça, chez les jeunes réalisateurs, on était plutôt dans le post-Piala, et donc beaucoup de gens qui avaient à peu près mon âge et qui faisaient leurs films allaient chercher des acteurs peu connus, quoi, avec l'idée comme ça de gens de la vraie vie. Et donc moi, non, quoi. Je me suis dit, je vais aller chercher Béatrice Dalle, il y avait Jeanne Balibar, il y avait Romain Duris dans le premier film, ce qui était comme des acteurs très... Qui était très chargé de passer de films des autres, etc. Et j'aimais bien cette idée du mélange, en fait. Et puis après, j'ai commencé à constituer une troupe, parce qu'il y a des gens qui sont inspirants dans le cinéma, et que quand vous rencontrez Chiara Mastroianni au moment des chansons d'amour, et Chiara avait vraiment un petit rôle dans les chansons d'amour, Vous avez envie. Je me souviens très bien quand Chiara était venue me dire, c'est mon dernier jour. Je me dis, mais non, tu vas rester. Il faut. Je t'ai pas filmé. J'avais l'impression de pas l'avoir regardé, pas l'avoir entendu. Et je sais pas pourquoi vous vous attachez soudain à des comédiens. Et puis c'est vrai que la voix, c'est pour moi, c'est essentiel en fait dans l'incarnation. Vous voyez quelqu'un comme Ludivine Sagné, par exemple, elle a tellement une voix qui ne s'accorde pas à son physique que du coup vous pouvez projeter sur elle de la fiction. Puis, en même temps, dans la voix, il y a quelque chose d'absolument brisé chez Ludivine, une voix très cassée, très très rauque, très qui donne en fait une impureté. Et j'aime énormément ça. L'impureté, je la retrouve aussi chez Chiara, parce que Chiara, selon où vous mettez le micro, vous entendez Marcello, vous entendez Catherine Deneuve, vous voyez, et c'est tellement troublant. Et puis, en même temps, Chiara, elle Je ne veux pas dire que pour moi, elle a dépassé Marcelo et Catherine Deneuve, mais l'avoir rencontrée, d'avoir travaillé avec elle, c'est vraiment une... C'est une actrice qui me... Je ne sais pas comment dire ça. Quand je fais un film avec elle, j'ai l'impression qu'elle le fait vraiment avec moi. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ma place de metteur en scène, soudain, elle se dédouble et que pour le coup, la frustration dont je parlais de pas réussir à pouvoir mettre mon corps dans les plans comme Moretti, comme Woody Allen, étrangement, le corps de Chiara, et pourtant Dieu sait, j'adorerais avoir le corps de Chiara et je l'ai pas, mais le corps de Chiara, j'ai l'impression qu'elle est vraiment un double dans mes plans. Et puis avec Louis, c'est un peu différent, parce que Louis, je l'ai rencontré dans un bureau de production quand je faisais Ma Mère.
Et Louis Garrel.
Louis Garrel, voilà. Je me souviens que mon directeur de casting de l'époque, Richard Rousseau, m'avait dit « Ah, si tu veux, il y a le fils de Philippe Garrel. » Je lui ai dit « Ah non, je veux pas de fils d'eux, etc. » Voilà, j'ai pas arrêté de tourner avec des fils et des filles d'eux. Mais finalement, à l'époque, j'étais comme les autres à dire « Ah non, je voulais pas le voir, etc. » Il m'a dit « Mais si, tu devrais. » Et puis voilà, si vous êtes pas aveugle quand vous avez Louis Garrel à 18 ans en face de vous... Vous dites, bah, il faut le filmer, quoi. Enfin, je veux dire, il y a aucun talent de metteur en scène à savoir qu'il faut filmer Louis. Mais il y a un moment, c'est normal. Les gens évoluent dans vos films, ils grandissent dans vos films, et puis à un moment, ils évoluent et grandissent dans les films des autres. Et puis,
il faut pas se transformer en ogre de 6 heures du soir.
Si, si. Alors moi, j'assume tout à fait d'être paternaliste et de. Vous parliez de troupe, moi ça m'irait très très bien que les acteurs avec qui je travaille ne travaillent qu'avec moi. Hein. Et qu'ils aillent au monastère après ou dans des couvents et qu'ils ressortent. J'adorerais ça. Mais pareillement sur mes fiancés et tout ça. Enfin, l'idée que des gens puissent vivre sans vous, c'est quand même un peu. Non, je rigole, mais il n'empêche que c'est douloureux. Non, c'est douloureux quand vous aimez beaucoup un acteur de le voir dans un film mauvais, par exemple. Je vous assure que c'est douloureux.
Allez-y.
Non, je ne le dirai pas, mais. Parce que vous dites, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé entre nous. Ça veut dire que... Mais c'est comme dans un rapport amoureux, quand vous êtes follement amoureux de quelqu'un, et puis après, vous le voyez avec quelqu'un d'autre qui est un parfait débile. Vous dites, donc ça veut dire que...
Tout ce que j'ai projeté, t'es fou.
Ouais, si peut ou si elle peut aimer tel genre de personne, c'est que ça ne valait rien, ce qu'on a vécu. Et donc c'est très douloureux. C'est pas qu'une question de jalousie, c'est énormément une question de jalousie. Évidemment, c'est une jalousie qui met la jalousie dans le cinéma sur les acteurs. Elle est forte. C'est pour ça que j'adore Chiara aussi, parce qu'elle tourne avec personne. Chiara, à chaque fois que je la vois, je dis alors t'as un projet. Je suis à grosse goutte. Elle me dit non, j'ai des trucs qui m'intéressent pas. Je dis ah ouais, t'as raison. Ben on va.
Qu'on était dans la troupe à l'instant, donc vous rêveriez donc d'enfermer vos acteurs à double tour après un film avant d'avoir fini l'autre entre deux opéras et pièces de théâtre. Justement, il y a un art connexe dont on n'a pas parlé, c'est le théâtre qui est concomitant comme à la naissance de l'écriture, puisqu'on parlait de votre premier roman, c'est 97, Les Débutants, de votre première pièce de théâtre, c'est 1998. Quelle place, justement, a le théâtre dans cette carte-là, dans le champ créatif de Christophe Honoré ?
C'est à la place de la liberté, vraiment. C'est-à-dire que malgré tout le cinéma, même si vous faites des films, moi je fais pas des films très chers, mais c'est des films à 3, 4 millions d'euros, donc c'est des sommes si vous voulez. Moi je viens d'un milieu assez populaire, je trouve ça insensé qu'on me confie ces sommes d'argent. Donc c'est très lourd en fait, et puis c'est très difficile d'obtenir, de les obtenir en plus. Quand vous faites un cinéma que vous voulez absolument... vous n'avez pas envie de vous plier tellement à la contrainte du marché, de ce qu'on attend, etc. Au théâtre, pour le coup, vous arrivez à enfermer des acteurs dans une salle pendant un mois et demi, ça ne coûte pas tellement d'argent.
Ah, on les a enfin enfermés.
Ils sont là, ils sont plutôt contents d'être là. Puis comme moi, j'ai la chance d'écrire, en fait, du coup, je fais des spectacles autour de l'écriture de plateau, c'est-à-dire que j'arrive et le premier jour, il n'y a aucune ligne d'écrit. J'ai ramené des extraits de livres, des extraits de films, et puis on se met autour de la table. Et puis je leur dis, on va faire un spectacle. Là, je suis en train de préparer un spectacle qui s'appelle Les Idoles, qui va être créé à l'automne, et autour d'artistes qui ont énormément compté pour moi quand j'avais 20 ans, justement, et qui sont tous morts du sida avant que je puisse espérer les rencontrer. Et donc, je vais leur demander de jouer ces gens-là. Guibert, Coltès, Lagarce, Serge Danet, justement, Jacques Demy, voilà. Et donc voilà, je choisis 6 acteurs et je vais leur dire bon bah toi tu vas être Jacques Demy, toi tu vas être Serge Janet, et on va démarrer, on démarre ce travail là justement en avril. Et c'est d'une liberté insensée, c'est-à-dire que on lit quelque chose, ils commencent à improviser, je les filme, après le soir, je renote tout ce qu'ils ont écrit, puis je réécris derrière, je leur redonne le lendemain, et c'est vraiment une manière collective en fait de travailler où la notion d'auteur disparaît, se dissipe, et j'aime vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que je ne sais pas si je suis réactionnaire ou si je suis affranchi de ça, mais je me méfie beaucoup de la notion d'auteur. Peut-être, alors vous allez me dire, c'est facile aussi quand on travaille un peu au cinéma, un peu en littérature, et que finalement ça va à peu près, c'est facile de dire que vous n'avez pas besoin de revendiquer votre place d'auteur. Mais il me semble en tout cas qu'il y a quelque chose de l'esthétique d'aujourd'hui qui se joue sur l'indécision de l'auteur. J'aime bien cette idée. Je comprends pas très bien quand dans mes génériques je dois mettre un film de Christophe Honoré. Très honnêtement, je me dis pourquoi c'est plus un film de Christophe Honoré ou de Chiara Mastroianni ou d'Alex Baupin ou de Rémi Chevrin, mon chef opérateur, ou de Chantal Immense, ma monteuse. Et pourquoi je primerais sur eux? Parce que je suis à l'origine, que j'ai organisé la chose, mais vraiment, est-ce qu'il n'y a pas, en tout cas, est-ce que à un moment le collectif, en fait, et je suis pas non plus pour revendiquer un collectif, mais je trouve que c'est je me méfie de la prise de pouvoir de l'auteur aujourd'hui. Et je le sens dans les films, je le sens dans les livres, je le sens dans les pièces de théâtre. Je sens quand à un moment, le metteur en scène a fait « Les petits gars, c'est moi qui ai le pouvoir » et a bien montré aux comédiens que c'est « Voilà, il a le pouvoir et donc je peux te demander de faire ça et ça et tu n'as rien à dire. » Et finalement, c'est aussi quand même toujours une première étape pour prendre le pouvoir sur le spectateur. Et on le voit, les films comme ça, qui sont des films, je sais pas comment dire ça, surveillés, quoi, absolument surveillés par le metteur en scène. Et aujourd'hui, il y a notamment une espèce comme ça de pour moi, de nouvel académisme dans le cinéma d'auteur international, avec des films qui ne marchent que sur la terreur qu'ils imposent aux spectateurs. D'être plus intelligent qu'eux, d'être plus intelligent que les personnages qu'ils montrent, d'être plus intelligent que les milieux, etc. Et il faudrait citer des exemples, mais en même temps, je me retiens. Je me dis, non, ne cite pas d'exemple. Mais je vois bien que c'est ce qui impressionne. Et c'est ce qui impressionne aussi les journalistes, etc. Et moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien quand il y a du doute, quand il y a des choses incertaines, quand un film échappe, quand on ne sait pas ce que ça va être la prochaine séquence. Et non pas quand on est terrifié parce qu'elle va arriver. Et le théâtre, cette manière de faire du théâtre avec l'écriture de plateau est vraiment un espace radieux pour ça.
Et quand vous vous attaquez à un texte inachevé comme celui de Gombrowicz, fin de l'histoire que vous aviez monté à la colline, là comment ça se passe? C'est différent, il n'y a pas cette écriture au plateau, il n'y a pas cette, pas disparition mais dissolution de l'auteur. Il est bien là quand vous y attaquez.
C'est ça qui est très fort, c'est que Gombrowicz n'a que travaillé là-dessus. C'est-à-dire tout le principe de l'esthétique de Gombrowicz est sur l'idée de l'inachèvement et justement de la contradiction et d'une écriture qui, a priori, prend des codes, soit de forme un peu désuète, le conte polonais, le polar, etc. Et il les transgresse absolument. Et justement, Gombrowicz est l'exemple de l'intellectuel qui travaille là-dessus. Et pourtant, Gombrowicz, voilà, polonais, exilé en Argentine, l'après-guerre, normalement, il avait tout pour appartenir, soit au clan des communistes, soit au clan capitaliste, soit au clan... Ouais. Et il n'a cessé de revendiquer la position de l'idiot là-dedans, justement, et de celui qui ne comprend pas et qui refuse, en tout cas, de s'accorder à l'autorité que confère à un moment l'appartenance à un groupe. Donc, Gombrowicz.
C'est le choix de l'antre.
Voilà, c'est l'antre absolu. Et Gombrowicz, il y a énormément. On a évidemment des textes de Gombrowicz, mais on a énormément improvisé d'après Gombrowicz. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on nous a pas mal reproché, etc. Et le spectacle, notamment, il y avait toute une deuxième partie du spectacle où je m'étais amusé à essayer de refaire une pièce de Gombrowicz avec un Mussolini, Staline, Hitler, traité d'une manière absolument grand-guignolesque.
Un Daladier ridicule.
Voilà. Et c'était absolument plus que de l'improvisation, mais j'avais l'impression qu'au contraire, là, on était au plus proche de l'univers de Gombrowicz. Cette autorité, si vous voulez, c'est quelque chose. Je ne sais pas comment dire ça. Forcément, quand vous avez fait une dizaine de films, mais je pense que ça existe aussi en littérature, au théâtre, il y a un moment vous avez l'impression que vous êtes arrivé et que vous êtes quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis les gens, ils ont envie un peu d'être quelqu'un. Et donc, ils se mettent en scène eux-mêmes. Et ça, je trouve ça... Enfin, moi, je sais que ça me terrifie. C'est-à-dire, le jour où je serai plein de certitudes sur je suis tel cinéaste, je suis tel écrivain ou je suis tel metteur en scène et j'estime qu'il doit y avoir une déférence par rapport à mon travail. Mais c'est tellement facile de se donner une importance, je sais pas comment dire, solennelle. Et je trouve que c'est à partir de ce moment-là où les choses meurent absolument dans l'art. Il faut tout le temps être... c'est idiot, j'ai l'impression de dire quelque chose d'absolument... Mais si vous n'êtes pas le premier à douter de l'intérêt de ce que vous faites, ça ne marche pas. Et moi, j'ai besoin de ça dans les livres. J'ai besoin de voir que les écrivains se disent « Ouais, là, cette page-là, quand même, ça tient pas. » Mais il faut la laisser, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est là où, justement, c'est toujours l'idée qu'on essaye, dans les films, dans les livres, de les rendre vivants. Et pour les rendre vivants, il faut les rendre inachevés, il faut les rendre impurs, il faut qu'il y ait des... chacun fait comme il veut, mais c'est pas si loin de ce que réclamait Hugo du théâtre romantique. Le beau, le laid, l'obscène, le magnifique. Voilà, c'est un romantisme, oui. J'assume pour le coup de m'inscrire plus dans un courant comme ça, plutôt que ces académismes-là qui sont assez terribles, je trouve, aujourd'hui, notamment dans le cinéma.
L'idée de la postérité, l'idée de la réception du public, ces choses-là, vous traversent, vous travaillent ou pas du tout ?
Si, bah forcément, ça nous travaille. Enfin, la postérité, pas trop encore, mais c'est atroce que vous me dites ça. J'ai jamais pensé tellement...
C'est une masterclass de France Culture, donc... C'est un entretien pérenne qui rentre un peu dans la bibliothèque
non,
de
mais
France
vous avez
Culture.
Raison. Donc non, mais c'est pas inintéressant de se dire, si on disparaît, qu'est-ce qui va rester de ça ? Peut-être, voilà. Mais non, la réception aussi, parce qu'on est quand même vite blessé de pas se sentir compris. Ou parfois d'être apprécié sur des choses où on se dit, c'est pourtant vraiment pas ce qu'il y a de plus fameux, quoi. Après, le problème, c'est la concurrence, enfin, notamment en cinéma, c'est-à-dire que par la force des choses, en fait, on travaille tous dans notre coin et on peut avoir des admirations, mais on sait très très bien qu'on est constamment en concurrence. On est constamment en concurrence au moment où vous avez une idée d'un film parce que vous allez voir des producteurs, des distributeurs, les chaînes télé, et il y a 20 ou 30 cinéastes qui, le même jour, envoient un scénario et que vous allez être choisi contre quelqu'un ou vous allez être écarté à la faveur de quelqu'un d'autre. Donc, et puis après, au moment où vous voulez faire le film, vous contactez un acteur qui dit « Ah non, moi je travaille avec un tel », voilà. Un technicien qui vous dit « Ah mais non, je vais aller travailler ». Donc, constamment, en fait, c'est une course. Et puis après, au moment où les films sortent, il y a 20 films qui sortent le même mercredi, et puis vous vous retrouvez... Alors, quand vous avez de la chance, c'est vous qui faites l'ouverture de la page ciné du jour. Et puis, quand vous avez moins de chance, vous êtes dans l'introfilet. Et 2 ans de travail, vous avez l'impression que ça n'existe plus.
Mais au-delà de ce temps-là, le premier temps de la réception, le temps ultérieur, justement, où justement ce rapport-là peut se rééquilibrer, où les œuvres peuvent prendre une autre place dans l'histoire de l'art.
Moi, j'ai toujours un peu... Je ne devrais pas dire ça, mais le sentiment que je n'ai pas fait ce que je devais faire. Je me dis, il y a un jour, je vais faire le livre que je voulais faire, je vais faire le film que je voulais faire et je vais faire la mise en scène de théâtre que je voulais faire. Donc, j'ai toujours l'impression que je fais mes armes. Enfin, ce qui commence à être ridicule, un peu à mon âge, mais j'ai toujours l'impression que je me prépare. Et c'est pour ça qu'on en parlait au tout début. J'ai l'impression que je me prépare quand même à une œuvre qui, à un moment, va mêler ce caractère a priori dispersé, ça va finir par aboutir à quelque chose de nouveau. Parce que je crois à ça, mais parce que en tant que cinéaste, je suis très influencé par la nouvelle vague, en tant qu'écrivain, le nouveau roman est très important pour moi et que je sais très bien que je suis quand même plus proche des formalistes, on va dire, que voilà, et que je pense que ce qui fait l'intérêt du travail du cinéaste, de l'écrivain, du metteur en scène, c'est de réussir à créer une œuvre inédite, quelque chose que les autres n'ont pas fait. Et parfois, cet inédit-là, elle n'est pas du tout liée à quelque chose d'incroyablement, je sais pas comment dire ça, en rébellion avec l'époque. Au contraire, souvent, l'inédit, c'est une manière de réinterroger le passé. L'inédit, pour moi, c'est quand vous arrivez à faire en sorte que votre œuvre ou que le passé hérite de votre œuvre. Et ça, c'est ce que je cherche, je crois.
Alors justement, peut-être il y a une discipline qu'on n'a pas abordée. Je ne sais pas si c'est celle-ci que vous allez embrasser pour faire votre œuvre totale. C'est l'opéra. Ça fait déjà 5 opéras que vous montez. Vous êtes sur le Don Carlos de Verdi en ce moment. Vous avez porté aussi Debussy, Poulenc, Mozart avec Così fan tutte. Est-ce que là, justement, il y a l'espace total?
Oui, bah Wagner le pensait, en tout cas. L'idée du spectacle total qui mêle littérature, effectivement, mise en scène, musique... Après, l'opéra, c'est quand même une succession de contraintes très fortes. Moi, c'est Serge Dorny qui dirige l'opéra de Lyon qui m'a proposé la première fois de faire une mise en scène d'opéra. C'était pas du tout dans ma culture. Moi, j'allais assez peu à l'opéra et c'est vraiment un domaine que j'ai découvert très tardivement. Et ce que j'aime bien quand je vais à l'opéra, c'est que je ne suis l'inverse d'un spécialiste. Parce que l'opéra est le lieu des spécialistes, des musicologues, des spécialistes. Donc voilà. Et le metteur en scène est quand même à l'opéra... celui qui embête un peu tout le monde, profondément, quoi. Si on pouvait s'en passer, les gens seraient plutôt heureux de ça. Donc, c'est forcément celui qui se fait huer le soir des premières, etc. Donc, c'est particulier, hein. Vous savez, quand vous travaillez, et c'est énormément de travail à l'opéra, et vous savez très très bien que le soir de la première, quand le rideau va s'ouvrir, vous allez vous faire huer. Parce que, tout simplement, vous proposez une lecture qui ne peut que venir... contredire ou en tout cas embarrasser ce que le spectateur classique d'opéra s'est construit. C'est-à-dire que les amateurs d'opéra, ils ont un rapport comment fétichiste à l'objet de leur passion. Ils sont un peu comme les enfants, vous savez, où leur proposer une histoire et ils disent « Ah non, tu veux pas nous raconter toujours la même histoire ?» Et tu fais « On va pas reprendre l'histoire du lapin, machin. » « Ah si, voilà. » Et tous les soirs, vous vous tapez l'histoire du lapin parce qu'ils veulent absolument pas, voilà. Et ben à l'opéra, c'est pareil. Vous arrivez, c'est Don Carlos, ils disent « Mais pourquoi vous nous mettez pas le Don Carlos, là, de Zeffirelli, c'était super ?» Et vous dites « Ben non, on peut peut-être essayer. » Et vous êtes celui qui les embête. Et ça correspond assez bien à ma nature un peu bretonne, teigneuse, d'aller embêter ça. Et puis en même temps, c'est beaucoup de plaisir parce que là aussi, ça dilue un peu la notion d'auteur, parce qu'il y a quelque chose qui est très agréable à l'opéra, c'est que vous n'êtes pas le seul maître à bord. Vous partagez avec le chef d'orchestre quand même une grande la responsabilité du projet. Et ça, j'aime énormément ça. Ne pas être le seul... le chef d'orchestre fait rarement huer, mais j'aime bien cette idée de ne pas être le seul à diriger ces gros navires.
Et là, le côté teigneux breton, il y a eu cette dissolution de l'auteur, il y a eu cette idée donc d'un inédit dont l'histoire hériterait. Merci beaucoup, Christophe Honoré, pour cette masterclass pour France Culture. Bravo.
C'était la masterclass de Christophe Honoré avec Mathilde Serrel. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Guergaillant.